T'es peut-être pas d'accord avec Marceau, mais t'as pas changé de poste encore. Soit il y a un peu de bon sens, ou tu le regardes pour ses chandails trop serrés sur Twitch. Voici Marceau le midi, avec Marceau et Pascal CV.
Ah, dans mes collaborateurs, je n'ai qu'un homme qui met des chandails serrés, c'est Louis Gauthier, chroniqueur international.
Oh, oui. Un chandail serré.
Ah, des chandails serrés, tu peux mettre ça quand t'as un corps
d'Adonis.
D'Apollon.
Ouais. Je comprends.
Je regardais la shape de Sylvester Stallone. Quel âge qu'il y a, Sylvester Stallone? Ouais. Tape donc sur Google. Il doit être autour de 71-72, Sylvester Stallone.
78!
Bon, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai enfin la shape de Sylvester Stallone.
Est-ce que je suis mieux de... rien dire?
Quoi?
Oui, d'accord, parfait, excellent.
J'ai enfin la shape de Rocky aujourd'hui, 78 ans.
Ces acteurs-là, sont quand même chanceux d'avoir tout au long de leur vie un métier qui fait en sorte que dans les tâches que tu as à faire, il y a de s'entraîner. Tu sais, nous, on est chanceux, je considère, c'est de suivre l'actualité. Fait qu'on est sensiblement au courant de ce qui se passe autour de nous parce que ça nous demande ça dans notre métier. On le ferait peut-être à l'extérieur si tu m'appelles un peu la bizarre, là, des fois, mais... ça reste que s'entraîner à chaque jour pour eux, ça fait c'est une tâche là, rémunérée pour ça.
Mais Sly, il y a eu toute une shape là. Je veux dire, si tu regardes les Rambo, les Rocky, c'était incroyable. Mais à 78 ans, quand il fait pas de film là, il est pas en game shape. Il a une petite bedaine. Je suis maintenant fier de dire que je suis aussi shapé que lui. Il y a Louis Gauthier, lui qu'on sera pas capable de dépasser avec son corps d'Apollon, 13h13. Salut Louis Gauthier.
Hey, salut. Je dois dire que ton âge, Yannick, moi, je l'avais mon six-pack.
Ah ouais, je suis pas capable d'enlever cette graisse-là viscérale qu'il y a entre mes abdominaux. C'était quoi tout ton truc? Tu buvais de l'eau puis du vinaigre?
Une soupe à glace pour souper?
Ah non, j'entraînais pas mal un de mes gars au hockey, puis pas mal impliqué dans les sports et tout ça. Alors, je me tenais pas mal en forme. Je gardais ma shape de 20 ans quand j'étais au hockey universitaire.
Mais opinion impopulaire, des abdos, là.
Ouais.
OK. Trop, c'est comme pas assez, parce que souvent, ça vient avec un style de vie.
Ah non, c'est ça.
Toi, c'est pour tes enfants, là, Louis, mais...
Moi, ça me prend tout le temps mon dessert. J'oublie ça, là.
J'ai
pas capable de me priver de nourriture.
Oui, mais moi, j'ai l'avantage de travailler beaucoup aux États-Unis. Donc, au moment où je vous parle, j'ai à peu près 47 ans et demi âge US. J'ai plus de 60 ans en âge canadien.
Tu mets ça en US, toi?
Ah ben oui, je m'encourage comme ça.
Louis Gauthier, chroniqueur international, on te pose la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Est-ce qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale?
Hey, ça a-tu brassé hier, les amis? Ça a-tu brassé à votre goût?
Le dôme de fer qui était considéré comme indestructible a connu quelques petites ratées.
Tout ça a commencé, les amis, en 2017, lorsque le gouvernement américain a imposé un embargo assez solide au gouvernement iranien en raison de la montée au pouvoir des gardiens de la Révolution sur le territoire iranien, qui se trouve être le regroupement militaire, mais qui est devenu politisé également, donc qui a pris des sièges. Et les Américains ont dit « ça va faire ». Toute entreprise n'avait plus le droit de vendre de l'armement du bloc de l'Ouest. Des entreprises privées n'avaient plus le droit de vendre de l'armement, de vendre de l'uranium enrichi pour des besoins médicaux, exemple. C'était terminé. Arrive un changement de pouvoir à Washington. En 2022, le président Biden lève cet embargo parce que les Iraniens ont décidé d'aller jouer sur les émotions en disant que la population avait besoin de soins. On sait qu'en 2021, à cet été-là, 2020-2021, on a eu d'énormes périodes de sécheresse. Puis il y avait eu beaucoup d'hospitalisations et la population iranienne vieillissait. Et on les a mis de l'avant. Donc, la population mondiale est devenue de front. Puis, on a décidé de fournir quand même, pour des besoins de médecine nucléaire à l'Iran, de l'armement, de l'uranium. Erreur. Parce qu'au même moment, le roi de l'Arabie saoudite est en train de faire des échanges commerciaux, préparer des échanges commerciaux avec Israël. Et ça a mis le feu aux poudres. Donc, depuis ce temps-là, ça a pété, puis ça va faire un an la semaine prochaine que ça a pété solide dans la bande de Gaza. Et c'est ce qui a développé tout ce qu'on voit présentement. Là, Israël représente la seule démocratie qu'il y a au Moyen-Orient. On a vu ce matin, il y a eu à peu près une dizaine de décès de l'armée israélienne dans des combats terrestres qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. C'était vraiment des combats électroniques que j'appelle, qui se faisait lors de la bande de la guerre de la bande de Gaza il y a à peu près un an. Puis là, on se retrouve au Liban avec des gars sur le terrain, puis des missiles qui sont lancés par-dessus l'Irak pour atteindre les territoires israéliens. Et on sait très bien qu'en Irak, il y a présentement des troupes américaines, puis il y en a un qui tape du pied pas loin de là, qui s'appelle Bachar al-Assad en Syrie, qui lui peut intervenir, mais pas du côté israélien, du côté iranien, parce qu'il y a des belles ententes avec eux. Puis c'est un pays qui est juste au nord-est du Liban, qui pourrait venir intervenir avec son armée directement sur le terrain pour venir en force à l'Hezbollah ou à l'armée libyenne, qui, elle, pourrait venir prendre la relève du Hezbollah, qui est très affecté depuis deux semaines.
Louis, quel est l'impact de la religion dans ce possible conflit mondial? Parce que, bon, oui, là, la seule démocratie et tout ça, puis on sait que les démocraties font suer un peu les dictatures, mais il y a des religions différentes là-dedans. Qu'est-ce que tu mettrais en premier? Qu'est-ce qui fait suer les gens autour d'Israël? La démocratie ou la religion?
Bien, la religion, Yannick, est une plaie ouverte depuis des millénaires. Elle sera toujours là parce que tu es en territoire, comme je le disais, je le dis souvent dans mes chroniques, le plateau de Golan est considéré comme la terre de naissance d'Allah. Oui. Puis pour le judaïsme, bien, c'est la terre promise d'Abraham. Donc, c'est sûr que c'est très, très profond. Puis là, on se retrouve, puis n'oubliez pas que c'est une jeune démocratie, Israël. En 1947, ça a été fondé. Puis, à l'époque où ça ne l'était pas encore, l'État d'Israël, c'était quand même, l'armée israélienne s'était considérée comme des terroristes dans le coin pour les musulmans. Puis, on a réussi à avoir un emplacement parce que pour les forces occidentales, c'est important d'avoir une démocratie dans le coin pour surveiller ce qui s'en venait, une denrée future, le pétrole. Parce qu'on est pas loin du golfe Persique, tous ces pays-là, on a énormément de pétrole. Donc, il ne fallait pas laisser la Ligue arabe qui est autour dicter des règles dans le monde, parce qu'on l'a vu en 2000 avec la guerre du golfe Persique, qu'est-ce qui est arrivé. Quand en Irak, on a décidé de jouer au gros bras avec les Américains, il y en a un qui s'est fait enterrer, ça n'a pas été trop long. Donc là, ça a mis le feu aux poudres. Mais la religion a toujours eu sa place. Par contre, c'est plus économique. Et comme je le disais il y a un an, la journée qu'on va frapper les Israéliens, demandez-vous pas quand... heureux est celui qui a acheté un billet de loterie quand l'Israélien va lâcher le morceau parce que ça n'arrivera pas.
Oui, ils ont le mort aux dents, puis ils ont aussi des alliés importants dans le monde, veut pas, les États-Unis qui se trouvent un peu coincés dans cette guerre-là en ce moment. Normalement, c'est comme un leader de, entre parenthèses, paix, mais quand on parle au niveau économique, il n'y a pas de paix là-dedans. Eux veulent leurs avantages économiques.
Pour eux, la guerre est payante. C'est des entreprises américaines qui fabriquent les armes.
Le hic étant maintenant, c'est que les pertes humaines, comme on a vu entre Israël et la Palestine, il y a des gens qui ont été pris en otage du côté de la Palestine par un mouvement comme le Hamas. Il y a beaucoup plus d'enjeux humains qu'il y en a eu auparavant là, dans cette guerre-là, Louis, parce qu'on a comme un peu démantelé les barrières du raisonnable en termes de guerre.
Mais la question que je me pose, Pascal, c'est si on n'avait pas levé l'embargo finalement en 2021-2022, tu sais, petit à petit, pendant les 10 mois que ça a duré, cette levée d'embargo-là, si on ne l'avait pas levé l'embargo, est-ce qu'on serait aujourd'hui dans la même situation? Bien, je crois que oui, parce qu'il y avait des ententes déjà commerciales qui se dessinaient entre l'Arabie saoudite et Israël, du même type qu'il y a eu entre l'Égypte et Israël, puis qu'il y a eu en d'autres pays. Là, il y a des extrémistes musulmans, comme les gardiens de la Révolution, qui sont pratiquement au pouvoir, là. Puis les gardiens de la Révolution, ça date de pas longtemps, là. Ça date de mai 1979. Ça a été créé par l'Ayatollah Khomeini lorsque le Shah d'Iran, quelques mois plus tôt, en janvier 1979, a pris le bord. C'est eux qui ont pris le contrôle. Puis là, bien, ils sont rentrés à la Chambre. C'est eux autres qui contrôlent pas mal tout ce qui est la politique économique du pays, qui est ultra conservatrice pour les musulmans. Et on ne l'aurait pas évité, là. Tu sais, quand même qu'on lève ou non l'embargo, on serait intervenu militairement pour éviter qu'Israël ait plus de pouvoir qu'elle n'en a là. Parce que c'est ce qu'on reproche à Israël. C'est une démocratie qui a trop de pouvoir pour la région. Puis on le voit par sa force militaire. On voit qui ont pratiquement éradiqué la bande de Gaza, puis ils sont rentrés comme, mon Dieu, comme un bulldozer au sud du Liban. Ça n'a pas de bon sens ce qui est arrivé, à un point tel que les Iraniens interviennent directement, puis que là, les Américains, sur ordre présidentiel, ont l'ordre de descendre tout missile qui vient d'Iran à partir des bases américaines localisées en Europe et sur les bateaux dans le golfe Persique.
T'as-tu l'impression que les Occidentaux vont avoir à se regarder pour la suite des choses ou ça va vraiment rester un conflit au Moyen-Orient puis assurément avec des problématiques économiques en termes de pétrole, de cargaison, de livraison, de produits aussi sur les tablettes, ça pourrait aller jusque-là là, si on veut. Mais
ça va aller surtout sur le pétrole parce qu'on a encore un fort pourcentage du pétrole qui vient de ces secteurs-là qui nourrissent l'Occident. Surtout dans les temps de chauffage. On l'a vu quand il y a eu j'en ai parlé, des blocages de pipelines par les Russes. Ça arrivait beaucoup plus par ces régions-là, plus au sud. Là, si on a un conflit dans les régions de l'Ukraine, en Russie, en Ukraine, puis au nord, le Bélarus, la Lettonie, tout ce coin-là, puis qu'en plus de ça, l'autre boulevard d'entrée du pétrole au sud est en plein milieu d'un conflit, comme on le voit là présentement, mais je vous annonce que ça va coûter très, très cher, le pétrole en Allemagne, bien partout en Europe. Donc, ça va coûter cher, puis ça va avoir des répercussions chez nous, parce que ça va créer ça va créer une demande qui va devenir de plus en plus difficile à obtenir. Puis ça va faire grimper les prix au niveau inflationniste sur tout ce qui est produit de pétrole.
Là, les États-Unis s'impliquent en détruisant les missiles qui pourraient toucher Israël. Qu'est-ce que le Canada doit faire? Qu'est-ce que les États-Unis doivent faire de plus? Moi, à mes yeux, à moi, c'est pas notre guerre. C'est une guerre de religion. C'est une guerre qui ne finira jamais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une des deux civilisations qui va être détruite d'un bord ou de l'autre.
Elle n'est plus religieuse, cette guerre-là. Elle est rendue vraiment économique, territoriale. Parce qu'on reproche à un de prendre trop de pouvoir, on le voit par la force de frappe des Israéliens, puis pour que les Iraniens interviennent, c'est sûr que ça crée l'ire du côté des Américains qui vont intervenir. Donc, on est dans un conflit mondial. À la minute que tu as d'autres pays, si on parle des Américains, il n'y a pas juste les Américains là-dedans, il y a les Français, il y a les Britanniques, il y a les Italiens qui sont là-dedans. Il y a même l'armée espagnole qui est débarquée pour aller protéger les côtes de l'autre côté de la Méditerranée.
Mais Louis, c'est pas notre guerre.
Oui, parce qu'elle est économique. Le problème est là, c'est que les alliances sont rendues tellement fortes, puis il y a eu les anciennes guerres qu'on a connues aussi au Moyen-Orient qui ont envenimé un genre de conflit. Le pétrole est obligatoire pour tout le monde. Les puits de pétrole se trouvent où majoritairement au Moyen-Orient. Donc, pour faire rouler l'économie, comme on dit, pour avoir une réponse à nos besoins matériels, une réponse à l'essence qu'on met dans notre voiture et tout,
Au Canada, on prend le pétrole. Oui, ça sera pas long, Louis. Au Canada, on prend le pétrole des États-Unis, puis quelques pourcentages de pétrole provenant des sables bitumineux, avec un faible pourcentage maintenant, surtout au Québec. On prend de l'essence, du pétrole d'ailleurs, mais c'est pas notre guerre. Tant aussi longtemps qu'on va se poser des questions, à savoir on embarque-tu, on n'embarque pas, on va juste prendre l'argent du contribuable moyen canadien, puis on va shipper ça là-dedans, puis ça fera aucune différence en bout de ligne. C'est juste qu'ils vont nous prendre encore plus d'argent dans nos poches pour envoyer là-bas. On ne réglera jamais rien avec eux autres, d'un bord comme de l'autre.
Bien, Yannick, je m'excuse, mais on commence déjà à avoir des menaces d'intervention iranienne sur notre propre territoire en Amérique du Nord. Je te rappelle qu'il y a eu des menaces qui ont été découvertes par les services secrets américains pour s'immiscer dans la politique américaine, puis même une autre menace contre Donald Trump, une autre menace comme le système démocratique qu'on pourrait nuire. Quand il y a des manifestations, va pas dire ça aux services de renseignement américains puis aux services de renseignement canadiens que c'est pas notre guerre. On est menacé par une attaque terroriste émanant de l'Iran, émanant du Yémen.
Mais c'est quoi? On va en faire plus. Faire plus pour que ça envenime les choses?
Non, c'est une guerre de sécurité pour nous au Canada.
Un fou comme Poutine dise on va embarquer nous autres aussi
non.
dans la danse.
Nous, c'est en fait se sécuriser là-dedans, autant en alliance que sur notre territoire. Et là, la problématique, puis c'est de ne pas mettre deux pieds dans les plats par rapport justement à une présence au mauvais endroit, au mauvais moment. On est encore le petit cousin des États-Unis qui, eux, vont être fortement plus impliqués à ce... Mais par cette alliance-là aussi en Amérique, soit le Canada puis les États-Unis, il y a quelque chose qui nous traîne en arrière des États-Unis. Mais c'est parce que, justement, puisqu'on a un territoire aussi avec de nombreuses ressources, mais si on en parlera dans un autre conflit, ça fait en sorte qu'on est, on est un enjeu de choix.
On en parlera dans un autre conflit.
Mais parce que c'est pas nécessairement nos ressources premières là, en ce moment qui sont dans le conflit du Moyen-Orient, mais oui. Il faut, instaurer le pouvoir, une puissance, puis un air d'aller pour ces dirigeants-là.
Mais regardez la corrélation entre la force de frappe qu'il y a cette semaine, puis on est juste mercredi, et le temps de l'année où nous sommes en octobre, ça commence à être froid en Europe, on commence à provisionner les besoins en transport pétrolier, en transport de besoins énergétiques vers l'Occident, puis regardez comment ça frappe, puis on essaie d'avoir un contrôle, puis de consolider un contrôle, que ce soit en Ukraine, en Russie, ou bien au Moyen-Orient. Ce sont les deux ports d'entrée du pétrole vers l'Occident qui sont présentement en plein milieu de conflits qui perdurent depuis longtemps, dont le principal là, qu'on parle présentement, ça va faire un an lundi là, que ça dure. Puis là, ça vient d'atteindre un autre niveau parce qu'il y a trop de pays qui sont impliqués. Non, ça demeure des intérêts économiques avant même que ça soit religieux parce que la religion, dans ce coin-là, on est venu au monde avec, puis on va mourir avec. C'est pas ça qui va changer quelque chose présentement, mais c'est très, très, très économique ce qui se passe présentement. Parce qu'on veut protéger le pouvoir extrémiste économique venant d'une extrême droite musulmane contre une démocratie ouverte que représente Israël dans le secteur.
On a 45 000 Canadiens qui sont sur le territoire du Liban actuellement. Il y en a, de ces 45 000-là qui ont été informés, il y en a 310 qui auraient accepté de prendre l'avion très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait, là? On évacue-tu le Liban de tous les citoyens canadiens?
Bien, écoute, premièrement, ce sont des citoyens qui sont d'origine libanaise. S'ils sont là-bas, c'est parce qu'ils sont avec de la famille. Ils ont fait le choix d'y aller. Ils savent c'est quoi. Je sais que la ministre des Affaires internationales, Mélanie Joly, a fait débloquer des vols d'avions, des avions qui sont analysés directement sur Beyrouth pour aller chercher les Canadiens qui veulent y aller. Puis il y a même des avions qui sont revenus à moitié pleine. Donc, il est où le problème? T'sais, on va-tu aller chercher ces gens-là, même si on leur a donné une double citoyenneté, qui ont été acceptés comme citoyens canadiens, est-ce qu'on va les forcer à revenir sur leur terre d'adoption?
On ne peut pas les forcer, mais il faut...
Sur leur terre de naissance.
Il faut donner l'opportunité, mais on ne peut pas les forcer. Hein. On a évacué aussi beaucoup de gens d'Israël là, avant les frappes balistiques là, d'hier, parce que ça se tramait puis ça se jasait. Là.
Ah, c'est pas terminé, là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une riposte des Israéliens, puis les Iraniens vont riposter à la riposte des Israéliens.
Ben oui, ça, c'est ça.
Ça n'a pas fini, cette histoire-là.
On a tout le contexte des walkie-talkies, des padjets, ensuite Israël qui se fait bombarder par les missiles balistiques. Israël qui a dit « Nous allons répondre à notre manière au moment où nous allons le juger opportun. » Et l'Iran qui a dit « Si vous faites ça, on va riposter à nouveau. »
Oui. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit au début de la chronique aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a levé un embargo sur l'Iran, puis qui finance tout ça depuis un an, ce sont les Iraniens.
Est-ce que Poutine, c'est une question d'un auditeur que j'ai vu passer hier, est-ce que Poutine, est-ce que la Chine ou est-ce que la Corée du Nord pourrait se dire « Ah, ben pendant qu'ils sont occupés là, on pourrait mettre peut-être un peu plus d'action ailleurs, ils pourraient-tu en profiter? »
Écoutez, Vladimir Poutine en a plein ses bobettes avec ce qui se passe en Russie. La Chine en a plein ses bobettes avec ce qui se passe pour le contrôle du détroit de Taipei entre la côte pacifique et la baie de Taïwan, là, ce qu'on appelle la baie de Taipei. Il y a énormément de forces de l'OTAN qui sont présentes là parce qu'on veut protéger justement le port de Taipei, là, qui est un port commercial très, très, très convergent dans ce coin-là. Et les Chinois essaient d'avoir le contrôle. Puis je vous annonce que ce n'est pas la Corée du Nord qui va intervenir avec ses missiles de carton. Il va se tenir bien tranquille, puis il va laisser aller le chaud. Puis lui, il va essayer de ramasser des miettes. Quand tout le monde va être couché, là, c'est là qu'il sort.
Rocketman va sortir.
On n'entend pas parler. Non, on n'entend pas parler quand ça devient une ligne majeure, lui-là. Là.
Exact, exact. Louis Gauthier, c'est toujours un plaisir. T'étais-tu aux États-Unis aujourd'hui?
Non, mais je m'en vais vers les États-Unis.
Bon, tu t'en vas où? Ça
va-tu, je suis dans la ville reine du Canada.
T'en vas-tu vers de la chaleur un peu?
Chicago, c'est pas mal un petit peu plus chaud tout le temps.
Ben, c'est venteux
pour les oreilles.
C'est venteux pour les oreilles.
Ben oui, c'est bien près. On est près du lac Michigan, mais c'est toujours un beau coin à surveiller. Là, j'en ai pour à peu près une heure à traverser la ville de Toronto. Si on se plaint du pont Pierre-Laporte, je vous annonce que la 400 à Toronto, c'est pas pour rien qu'ils ont fait un troisième boulevard payant là, qui passe un peu plus au nord.
Là, tu conduis-tu à la clutch ou bien tu conduis automatique, toi?
Ah, c'est tout rendu automatique, ça coûte moins cher.
Parce qu'à la clutch, là, à Toronto, ça doit être plate en maudit sur le pied gauche.
Ah, bien ça, t'as des petits trucs, là. Toi, tu veux, à 65 ans, là, tu viendras... Si tu vas avoir le goût de chauffer un camion, là, je t'embarquerai avec moi, tu vas voir c'est quoi. Mais
ouais.
Quand t'es à cloche, t'es capable de laisser ça sur une vitesse, puis tu laisses avancer le camion, puis il étouffe pas.
Ah, c'est
mais automatique, c'est rendu tellement électronique sur les véhicules. Je l'ai tout le temps dit, hein, la différence entre chauffer un camion puis piloter un avion, là, c'est qu'il y en a une qui est dans les airs, puis l'autre est sur la route, puis c'est la même chose, là, t'as autant de cadrans.
Et t'es un vieux loup, tu nous en apprends tout le temps. Merci, Louis Gauthier.
T'en viens là, Yannick Marceau.
J'ai 25 ans avec un peu d'expérience.
Ips.
25 ans dans le temps que l'argent américain était vraiment paupère.
Je vais me faire du botox dans le front, là. Ça a l'air que j'ai des plis. Comment t'as appelé ça tantôt? Des plis
des,
de...
Des rides d'expression.
Elle a dit que j'ai des plis d'expression dans le front, Louis. Fait que faut que je me fasse faire du botox.
Là, c'est lui qui a demandé ce qu'il y avait.
On peut pas être tous comme Pascal avec une jeunesse et une beauté éternelle.
Ah, ben oui. Mais là, je l'ai pas insulté. Je vais me faire insulter de t'avoir insulté. C'est pas ça. C'est quoi t'as dit? T'avais décrit ça comment, toi? Des cicatrices. Parce qu'il a dit qu'il y avait des cicatrices
dans le front. Parce que moi, je ne mets pas de crème. Quand je vais dans le sud, je ne mets pas nécessairement de crème non plus pour le soleil et tout. Fait que c'est pour ça que ma face est de même.
Ouf.
C'est des cicatrices de guerre. Ben oui. Salut, Louis.
Hey, bonne journée, tout le monde.
Salut, bye-bye.
Faudrait que tu t'en mettes. Faudrait que tu te graisses la peau un peu. Là.
Je regarde des fois à la pharmacie. Là, je sais pas si les gars, vous nous écoutez présentement, 418-971-101. Mais quand je passe à la pharmacie pour aller chercher des trucs, je regarde le rayon des cosmétiques pour hommes. Ça grossit d'année en année.
Oui.
Puis je me dis, tabarouette, les gars, ils trouvent le temps où de s'occuper de leur peau?
Ben comme les femmes le trouvent.
Tu sais, moi, je m'occupe de ma peau avec de l'Irish Spring. Ça lave mon char, ça lave mon chien, ça lave la cour, ça lave mon corps, ça lave mon péteux, ma face, dans l'ordre.
J'espère.
Dans l'ordre. Mais là, je vois tous les rayons des cosmétiques hommes. Je me dis, mais y a-tu vraiment des gars qui utilisent tout
ça? Mais c'est quoi la différence entre ma peau de visage et la tienne, Yannick? Mis à part la beauté.
C'est gentil, merci, Pascal. C'est gentil, mais toi aussi, t'es belle.
Ouais, c'est ça, pas là pour toi. Il y en a pas.
Non.
La seule différence, c'est que toi, ton collagène va commencer à dropper, à chuter à partir de 50. Moi, c'est commencé depuis mes 25 ans.
Ouais. Mais vos affaires de cosmétiques, c'est de la grosse arnaque. Là. Mais je sais que bon, vous en rendez pas compte, là, mais écoute.
Oui, c'est de la grosse arnaque.
Je regardais les crèmes là, l'autre jour, les crèmes de ma blonde. Là.
OK.
Puis là, j'ai posé une question, puis elle m'a regardé comme si j'étais un moins que rien, mais en même temps, je pense que c'est la question la plus pertinente que j'ai posée cette année. J'ai dit, Isa, t'as une crème de jour qui dure 24 heures, t'as une crème de nuit qui dure 24 heures. T'as pas senti l'arnaque?
Ça dépend. Si elle achetait pas une de 24, il se passe quoi?
Je répète, Isa, dans ton armoire, t'as une crème de jour qui dure 24 heures, t'as une crème de nuit qui dure 24 heures. T'as pas senti l'arnaque?
Je comprends que là, t'en as pas 48 heures là, dans ce que tu dis. Donc, un pot, c'est correct. Sauf qu'au moment où tu te laves le visage...
La crème que tu mets d'en face, elle dure 24 heures.
Tu te laves le visage à un moment donné, t'as sué à un moment donné. Moi, le 24 heures, j'y crois pas nécessairement. Là.
Vous comprenez rien.
Sais-tu où l'arnaque, par contre?
Oui, les filles qui se font faire du botox, là, ça a l'air du péteux des singes.
Non, là, tu parles des lèvres avec des fillers puis des agents de comblement. Quand c'est mal fait, j'avoue que les lèvres rentrent dans la pièce avant la personne. Quand c'est mal fait. Ça, c'est un jugement de valeur. Par contre, sur tes crèmes, là où c'est de l'arnaque, c'est que des fois, ils vont te décomposer une crème, puis là, il faut que tu achètes toutes, tandis que dans une, il y a toutes.
Tu vois, j'ai des gars qui sont dans mon équipe, Irish Spring Team Marceau.
Ouais.
C'est
ça, same. Mais quelqu'un dit same shit, different continents.
Exactement.
Mais c'est ce que je viens de te dire. C'est qu'à un moment donné, si tu en achètes 150 000, ça se peut que tu as déjà ce qu'il te fallait dans un dé. T'sais, le moment où on décupe, là, c'est là où on peut me perdre dans l'efficacité puis l'arnaque.
Crème de rajeunissement, ça a-tu déjà existé?
Ben, la stimulation de collagène, là. Ça va t'aider à ne pas avoir, comme tu dis, des cicatrices.
Dans le front.
Dans le front, trop rapidement.
Ouais, mais au moins, on voit que j'ai des émotions dans mon front.
Oui, mais ça...
Tu vois, toi, on voit que t'as pas de cœur. T'as jamais d'émotion.
Ça prend, toi, Yannick, que t'en es.
Des émotions?
Non, des rides d'émotion.
J'en ai?
Mais...
Tu sais quoi, j'ai remarqué? Ah non, je vais te parler de ça.
Mais tu rides tes yeux. Puis tu sais, je veux pas te complexer, mais il y en a ici, là. Des cicatrices, comme tu dis.
Je ride des yeux.
Oui, parce que t'es très expressif avec tes yeux.
C'est vrai?
Oui.
Quand je regarde ma blonde, elle me dit que je suis expressif aussi.
Oui, mais c'est souvent méchant, là, le petit regard.
Avec mes petits yeux, là.
Oui, c'est ça.
Ouais, salut, c'est samedi.
Oui, ça doit pas être les mêmes yeux que je connais.
Les
là,
enfants sont pas là.
C'est ça, faire ramener à ça. Hein.
13-35.
Tu veux les garder, crème-toi.
Je répète, là. Vous vous faites arnaquer. Crème de jour, 24 heures. Crème de nuit, 24 heures. Les filles, j'essaie de vous faire sauver de l'argent.
Ah oui? Tu regarderas plus, toi, sinon, te connaissant, le vieux bonobo, là, à 45.
De quoi?
Tu regarderas plus. Si on fait pas
qui,
attention
ça?
À nous. Ben, t'es écoute, le premier bonobo de la ville de Québec. Blonde... Si tu sais pas ce que c'est, un bonobo puis ses activités, là, va chercher.
Ma blonde a 37. J'ai jamais sorti avec une fille aussi vieille.
Arc.
Ben, c'est sûr qu'on vieillit, là.
J'espère.
On va avoir 38, là. Hey, c'est un choc. Devriez faire une chronique Manscape avec Denis. Il a les mêmes... C'est quoi?
Il a même une petite huile d'après. Ben oui.
Une petite huile d'après, c'est
après
quoi ça?
Après rasant. Ah, ça sent tellement bon. Ça ajoute du sex appeal. Je m'excuse, là, mais on peut pas laisser se passer ça.
Ouais, mais moi, là, je mets pas ça. C'est, moi, je mets du déodorant.
Toi, c'est parce que tu émanes le sex appeal, Yannick. Hein?
Ah, merci, c'est gentil.
C'est ça.
Merci. On s'arrête là-dessus.
T'as rien besoin d'autre.
Exact. Boulevard 102.1.